17h14, Luc Ferrandès, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à cette enquête?
C'est assez divertissant, hein, parce que on voit le piège se refermer sur Mme McCann.
Oui.
Et je ne sais pas si elle le voit se refermer sur elle, là, à chaque bribe d'information qui est donnée. Et Mme McCann de se rester attachée à son petit bout de papier qu'elle a envoyé le 28 janvier à tout le réseau en disant non, j'avais promis. Mais c'est drôle qu'elle réagisse comme ça parce que là, maintenant, on vient de mettre des dates. Alors, les dates, ça nous dit qu'il manque un mois dans le calendrier. C'est entre le 28 janvier puis le mois de mars, le tout début de 2 mars. Que s'est-il passé? Quelle a été l'information qui a été communiquée? D'abord, on sait maintenant, en plus, on sait une deuxième chose. On sait que on avait de l'information sur les CHSLD. On vient de l'entendre, là, le nombre de personnes touchées, les employés manquants, etc. Donc, il y avait de l'information qui remontait. Mais quel a été le plan d'action qui a été envoyé au CHSLD? Quelles ont été les directives? Et on sent qu'il n'y en a pas eu.
Ça m'apparaît assez clair. Et toi, tu disais divertissant. Moi, je te dirais totalement décourageant. Mais on savait déjà.
Oui, je sais. Mais moi, je trouve ça divertissant parce que je trouve qu'il s'enferme tout seul, Mme McCann, M. Legault, il s'enferme tout seul dans un débat qui ne devrait même pas avoir lieu. Mm. Parce qu'on était tous présents, puis on sait que il manquait, pendant ce mois de février-là, il y a eu plein d'hésitations. Par exemple, il y a eu toute la question de la transmission communautaire.
Oh oui, pas de masque. Puis on se faisait même dire que c'était plus sécuritaire, pas de masque, mais quelle horreur. Mais en même temps, bon, écoute, j'imagine, comme disait...
Puis pas de test non plus.
Comme on disait, on a
très peu de cas. Puis quand tu fouilles un peu, tu vas dire, ben oui, okay, le 13 mars, là, il y avait seulement 17 cas au Québec. Qui peut croire ça? Voyons donc. C'est pas parce qu'il y avait 17 cas au Québec, c'est parce qu'il y avait très, très peu de tests qui étaient faits. Alors, ça a pris du temps au gouvernement à s'organiser, à mettre en place, à avoir une vision. Parce que aussi, la vision, rappelle-toi, de la vision des CHSLD avant qu'il y ait un grand coup qui soit donné, c'était il faut qu'on s'arrange avec les ressources qu'on a. Et puis les ressources, on n'en a pas. Les gens ne viennent pas travailler. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait décréter du temps supplémentaire. Il fallait faire des réorganisations d'horaires. Mais c'était marginal par rapport à l'effort qui était requis. Donc, on était en plein chaos. Mais est-ce que c'est la faute du gouvernement et rien que du gouvernement et ce gouvernement-là?
Et là, on est obligé de dire non. Parce qu'écoute, voilà. Les CHSLD, ça remonte à bien avant la pandémie, qui sont les négligés du système.
Mais si ce n'est pas leur faute, pourquoi est-ce qu'ils se débattent comme ça?
Parce que là, c'était eux qui étaient au pouvoir au moment où...
Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve ça divertissant. Parce que je trouve que...
T'as raison là-dessus. Ils se défendent pour une grosse partie qui n'est pas leur responsabilité. C'est pas de leur faute si les CHSLD étaient déjà le parent pauvre de tout le système. Mais moi, pour avoir visité des gens en CHSLD, je te confirme que c'est pas jojo comme atmosphère en général. Et il y a des endroits où c'est merveilleux parce que t'as des anges gardiens qui sont là, qui se dévouent corps et âme. Mais déjà, le manque de personnel qui était là. Puis moi, ce qui m'arrache le cœur, mais totalement, qui m'enrage, c'était quand les travailleurs quittaient puis que personne venait les remplacer, puis les gens n'étaient pas nourris.
Moi aussi, j'étais un peu fâché, là, mais en même temps, là, les gens commençaient à comprendre que c'était une maladie qui tue, que c'était une maladie qui s'attrape facilement. Et donc, qui voulait aller là-bas sans équipement de protection?
Il y avait même
des médecins qui travaillaient en télétravail, là, pas en télétravail, mais en télémédecine. Là. Ils ne voulaient plus aller sur place. Fait que, oui, on peut comprendre, on peut être désolé, puis on peut avoir le cœur arraché, comme tu dis, ils n'étaient même pas nourris. Mais en même temps, qui voulait y aller? Mais tu sais, quand on parle de l'hésitation, ça en fait partie, ça aussi. Là. C'était quoi les directives qu'on envoyait? Et puis, il y a une autre... Au début du mois de mars, il y a la semaine de relâche. Puis à la semaine de relâche, 7 jours plus tard, on a des milliers de personnes qui reviennent d'Europe où la crise sévissait terriblement fort.
Depuis janvier. Puis moi, je me souviens, avant ça, on regardait ce qui se passait en Italie dix jours avant, deux semaines avant. Puis c'était comme, aïe, aïe, tu sais. Puis c'est ça, ça mourait dans les hôpitaux. Les personnes âgées, hyper vulnérables. Alors, c'est clair que, oui, le gouvernement en a échappé quelques-unes, mais il n'y a pas tout échappé. Il y a une partie qui n'était pas de sa responsabilité. Qui était comme déjà comme ça avant. Bon, écoute, ton autre sujet, les fameux bracelets électroniques annoncés par Geneviève Guilbeault. J'ai parlé à Mme Guilbeault tout à l'heure.
Ben oui, c'est intéressant.
Elle y croyait beaucoup. Puis, bref, j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Parce que moi, c'est... Ben, et je te dis, j'ai hâte que,
oui, que, ça, aille que encore, ça marche,
que ça marche, puis que ça aille plus loin, puis que ça soit vrai, puis que c'est, je dis que ah, oh, Seigneur, il se passe tellement d'affaires entre le moment où une personne porte plainte, puis retire sa plainte, puis
oui.
Ça fait partie de la violence conjugale.
Puis dans presque tous les cas, on dit, ben, il y avait eu des antécédents, ou cette personne-là, il y avait eu des plaintes, etc.
Oui.
Ben, d'abord, je trouve qu'il sort très, très fort, là, parce que on parle de, dès le départ, là, elle a parlé de 2000, plus de 2000 bracelets, 2300 personnes qui pourraient être faire l'objet d'un bracelet,
oui.
Là, faire du
oui.
port du bracelet. Alors qu'en Espagne, c'est utilisé depuis 10 ans, pays pas mal plus gros que le Québec, là, autour de plus de 40 millions de personnes. C'est 1350 femmes qui sont protégées par un bracelet, et c'est le pays où il y en a le plus. Alors, c'est donc une annonce gigantesque là, pour le Québec. C'est énorme.
Oui.
Ils sortent très fort. En Espagne, en 10 ans, il n'y a pas eu une seule femme tuée dans les personnes qui portaient le bracelet.
Oh.
C'est extraordinaire. Hein.
OK. Ben, ça, c'est une information essentielle et formidable. Et
oui.
Ça ajoute beaucoup de poids à cette décision quand même assez coûteuse. Hein?
Oui, oui.
44
coûteuse
millions,
puis ambitieuse. Parce que tu sais, tu ne mets pas le bracelet comme ça. Tiens, toi, tu m'as l'air de gars agressif. Viens ici que je te mette le bracelet.
Non.
C'est un jugement. Il faut que ça soit mis soit suite à une accusation ou à une remise en liberté ou des choses comme ça. C'est pas évident. Là. C'est pas tout le monde qui va être protégé par le bracelet. Là. Une femme qui vit en couple avec un homme violent puis qui dénonce pas cet homme violent-là n'est pas protégée par le bracelet. C'est une personne qui a jamais été accusée, un homme qui a jamais été accusé. Là, il reste à voir, ça va être quoi les détails. Là, mais s'il a jamais été accusé, on lui mettra pas le bracelet du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a des pays où ils y vont de façon parcimonieuse et ils mettent le bracelet de façon préventive à ceux qui ont voulu le porter, comme la France, par exemple. Il y a seulement 60 personnes qui portent le bracelet de façon préventive sur 1000 possibilités, 1000 dossiers.
Ouais.
Alors, c'est le bout qui reste à voir. Là. Qui va le porter? Quels sont des résultats à long terme? Mais celle qui le porte a paraît-il.
C'est-à-dire celui qui le porte, c'est-à-dire
oui,
lui
c'est
va
ça.
Le porter à la cheville, puis elle va avoir un genre de capteur qui fait que si elle est à moins d'un kilomètre d'où elle se trouve, peu importe où elle se trouve, elle peut appeler la police, puis il y a quelque chose
en fait,
qui...
mais ça appelle directement la police, ce que j'ai compris.
Oui, quelque chose comme
après
ça.
Après ça, il faut que la police vienne. T'sais, on a beaucoup de cas au Nunavut, là, c'est immense, là, ce sont des villages, c'est pas très isolé les uns des autres.
Ouais,
c'est pas évident que ça va se faire,
mais
automatiquement.
Ce que ça envoie comme message, puis je pense que tu vas être d'accord, Luc, c'est que il se passe quelque chose en ce moment dans notre société, qui invite les femmes à dénoncer plus vite, qui invite les femmes à agir, même si elles ont peur. C'est plusieurs mesures, là, le fameux tribunal spécialisé, le bracelet, qui, comme je te dis, c'est pas si cher que ça dans le sens, dans un gros budget d'une province, mais quand même. Et mon impression, c'est que ça pourrait donner un incitatif aux femmes de dire, je le fais, je veux plus me faire traiter comme ça,
bon,
je pense que je vais avoir de l'aide.
Ça, tu vois, ça reste à construire quand même, parce que est-ce qu'une femme va pouvoir aller se plaindre à la police et la police exiger le port du bracelet par son
conjoint?
On
n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais peut-être qu'elle va oser porter plainte.
On va le souhaiter. Et tu sais qu'il manque une grosse pièce au puzzle pour
Vas-y.
Que ça se produise, c'est le logement. Le logement. Tu sais, est-ce qu'elle sort avec ses enfants sous les bras, puis elle va aller dans une résidence, dans un centre pour les femmes, va être reçue là pendant une durée déterminée, puis après ça, quoi? Tu sais, il n'y en a pas de logement disponible, ils sont hyper chers. Et si, tant qu'il y aura une crise du logement de cette intensité-là, on peut penser qu'ils vont essayer d'étirer le moment où ils restent encore ensemble en se disant, bien, on va s'organiser, on va s'arranger.
Oui. Ben là, dans les maires de Longueuil puis de Laval, qui avaient dit qu'ils se rencontreraient même avant d'être élus, il faudrait peut-être ajouter Mme Plante, puis que là, il se passe quelque chose dans toute la région de Montréal, parce qu'il faut effectivement, faut qu'il se passe quelque chose. Ça n'a aucun bon sens. Luc, on doit se laisser là-dessus, à regret.
Ben oui,
j'aurais
toujours
poursuivi
un plaisir
la
de parler.
Discussion. Je te dis à demain. Un gros merci.
À demain.
Salut. Dans quelques instants, Pierre-Yves McSween va nous parler de la classe ambitieuse. Le suspense dure encore.